Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
Bonjour Pierre-Olivier.
Salut Mario.
Alors tu nous donnes des conseils, en fait sur un sujet où tu nous as déjà sensibilisé, la hausse du prix des matériaux.
Oui.
T'as maintenant des trucs?
Ben, je voulais en profiter pour peut-être donner quelques conseils à la lumière d'une expérience personnelle, Mario, qui est celle de la construction d'un gazebo à la campagne. Alors, je me suis lancé dans ce projet il y a quelque temps et puis je me suis mis moi-même au défi de réduire la facture des matériaux de construction à l'heure où, on le constate, il y a une véritable flambée des prix. Alors, je me suis dit que je pourrais peut-être partager un peu mes apprentissages avec tout le monde.
Certainement.
La première chose, Mario, magasiner en région coûte pas mal moins cher.
Qu'à Montréal, Granville?
Oui, et je te donne un simple exemple. Pour construire une terrasse, j'utilise des planches de 5 quarts par 12 pieds. La même planche à Montréal est vendue autour de 19 $, alors qu'à la campagne, dans la région de Lanaudière, elle est autour de 15 $. Il y a donc une différence d'à peu près 25 %. Donc, ça coûte 25 % plus cher pour cette même planche à Montréal versus à la campagne.
Parce que probablement le quincailler, le pied carré de terrain, l'opération, tout est un peu plus cher, là.
Voilà. Avoir une cour à bois à la campagne, ça coûte moins cher que stocker des 2x4 et de la planche de bois traitée en ville, dans des secteurs où c'est assez dense. Il y a les coûts du transport également, de la campagne à la ville. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais lorsqu'on magasine et qu'on a besoin de grandes quantités de bois, ben dans mon cas, j'ai économisé autour de 500 $ simplement en achetant à la campagne versus à la ville. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a des magasins de surplus de matériaux de construction qu'on ne connaît souvent pas. Tu sais, notre premier réflexe, ou en tout cas le mien en tant que bricoleur du dimanche, c'est d'aller dans un grand centre de rénovation, un entrepôt, et d'acheter le matériel qui est nécessaire pour le projet. Mais vous avez des magasins de surplus de rénovation, donc une espèce de... Je ne comparerais pas un village des valeurs, là, mais ce sont des...
Mais est-ce que c'est de la scrap? Est-ce que c'est des 2x4 tout tordus avec un bout, un bout d'écorce? Mais ben oui, des fois, c'est ça. C'est, tu ris, mais...
Oui, y a probablement. Mais je te donne un exemple pour une toiture de tôle. On sait que l'acier, en ce moment, coûte extrêmement cher. Lorsqu'on va aller chez un fournisseur ou dans un magasin traditionnel, la toiture d'acier va te coûter à peu près 20 % plus cher que l'an dernier cette année. Mais si tu t'en vas dans un magasin de surplus, que tu regardes les feuilles d'acier, le choix de couleur est peut-être moins intéressant, mais si tu choisis de la tôle noire, ben elle est disponible et elle est à peu près 30-35 % moins chère.
Wow, OK,
que ce que tu
c'est
retrouves
pas
dans
une nuance là.
Non, c'est pas une nuance, c'est vraiment, on parle de prix beaucoup plus abordables et souvent ces magasins de surplus là, ben vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez magasin de surplus de matériaux et le nom de votre région et vous allez trouver probablement à proximité des commerces dont vous ne connaissiez peut-être pas l'existence, mais qui offrent des prix vraiment compétitifs. Et l'alternative à ça, c'est de se tourner vers des sites de revente comme Kijiji, comme Marketplace. Vous avez parfois des professionnels de la rénovation, des entrepreneurs qui se retrouvent au terme d'un projet avec des surplus de matériaux et qui vont les vendre avec une escompte quand même appréciable sur Facebook Marketplace ou sur Kijiji. Alors ça, c'est une bonne façon d'économiser. Puis quand je te dis 20 % pour une toiture, quand je te parle de 25 % pour le bois, on commence à parler, là. Ça commence à vraiment se faire ressentir sur le prix, sur la facture totale d'un projet. Puis le troisième conseil que j'aurais, c'est d'opter pour des matériaux qui sont moins nobles, mais qui sont tout aussi durables. Je te donne un exemple. Pour une terrasse, vous trouvez que le prix du bois traité, du cèdre, du pin jaune est complètement fou cette année. Ben, vous regardez d'autres essences de bois dont le prix n'a pas nécessairement bougé. Alors, au lieu de le faire en bois traité, vous pourriez le faire en pruche, par exemple. Et traiter
vous-même.
C'est
extraordinaire, la pruche, là. C'est presque aussi bon que le cèdre pour pas pourrir.
C'est ce qu'on utilise notamment pour faire des granges à la campagne. Donc, le prix de la pruche a beaucoup moins bougé. La pression à la hausse est pas mal moins importante que sur d'autres essences comme le cèdre ou le pin jaune. Ou la guarapa, c'est un bois exotique qu'on utilise parfois pour faire des terrasses. Le prix a littéralement explosé, alors que le prix de la pruche, là, quand on va dans le
ouais,
le
ouais, mais là, c'est c'est moins prestigieux de dire que t'as une terrasse en Pruche, comment il s'appelle l'autre bois, le bois brésilien?
La Guarapa.
La Guarapa, ouais.
Ouais.
Attends que tu sois des invités, tu veux péter de la broue un peu, là.
Ben, mets une meilleure bouteille de vin sur la terrasse.
Je te dirais, il est là ton,
c'est l'argent. Et là ton Guarapa.
L'argent est dans le vin, parce que la Guarapa, c'est 42 $ la planche. La Pruche, on est autour de 10 $, 12 $. C'est vrai que c'est moins prestigieux.
Mais à chaque planche, tu libères une bouteille de vin de 30 $.
Là, on commence à jaser.
On commence à jaser.
Mais l'idée de Pierre-Olivier, de juste remettre ça à l'an prochain.
C'est une idée, mais en même temps, Vincent, c'est la question souvent que les gens me posent par courriel. Et c'est ce qu'il faudra voir au cours des prochains mois, des prochaines années, à quel point le prix des matériaux va reculer par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Avant d'entreprendre mon projet, j'ai sondé des entrepreneurs, des promoteurs immobiliers, l'Association de la construction, et je leur demandais, est-ce que c'est mieux de repousser? Et la plupart du temps, ce qu'on me dit, c'est, écoute, est-ce que tu as souvent vu des hausses marquées sur le marché des matériaux suivi d'une baisse? Pas vraiment.
Aussi marqué, non, c'est ça.
Non, ça reviendra jamais au prix d'avant la pandémie, à moins d'un crash important. Donc, peut-être que ça va se stabiliser.
Ça peut se stabiliser, mais est-ce que, ça, à mon avis, c'est très peu probable qu'il y ait un effondrement là, des quantités de travaux puis de rénovations dans les prochaines années, là.
Exactement. Alors, ce qui me permet de dire, et faites les travaux vous-même. Je sais que il y a des travaux qui nécessitent parfois l'aide d'un professionnel, d'un entrepreneur, mais quand ce sont des petits projets, des petits travaux, ça permet encore là d'économiser. Alors, je me souviens, Mario, d'avoir écrit une chronique dans le journal il y a à peu près 5 semaines où je parlais de l'estimation. J'en ai même parlé à ton émission. J'avais demandé à plusieurs charpentiers de me donner une soumission pour mon gazebo. On était autour de 25 000 $ à l'époque.
La moins chère.
La moins chère, 25 000 $, imaginez. Et en le faisant moi-même avec des matériaux moins nobles et quelques conseils que j'ai énumérés, je m'en sors gros maximum 3 500 $. Alors, voilà, suffit de travailler fort pour économiser.
On va-tu encore faire, tu penses, la même émission dans 25 ans? Parce que je vais pouvoir t'en parler. Ça s'est-tu écroulé? C'est-tu tout pourri? Ça a-tu l'air? Y a-tu une pépine qui a juste donné 2 coups de pelle et qui l'a mis dans un container, ton gazebo, oui. Non?
Je pense que ma conjointe partage tes appréhensions.
OK. Bon.
On verra bien.
Ceux qui pourront se payer de la Guarapa, c'est assurément ceux qui se sont achetés des bitcoins dans les dernières années. Parce que là, écoute, je pense que c'est 62 000 $ chaque aujourd'hui américain, ouais. Donc 77 000 $ canadiens. Et en plus, c'est consacré maintenant à Wall Street.
Avec l'entrée en bourse de Coinbase, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le marché des crypto-monnaies et du Bitcoin, Coinbase, c'est comme un guichet. C'est un peu un Desjardins ou une banque nationale du Bitcoin, un guichet ATM en quelque sorte. On peut y transiger avec de l'argent, avec une carte de crédit, acheter des crypto-monnaies et ensuite gérer un portefeuille. Coinbase fait aujourd'hui son entrée à la bourse de New York avec un prix de départ où on évaluait la compagnie, imaginez, à 100 milliards de $ américains. L'action a terminé la journée en forte hausse. Je jetais un coup d'œil au début de la journée. À l'ouverture, c'était à peu près 50% de hausse. Je vais simplement regarder à l'heure actuelle pour vous montrer l'engouement que ça a suscité. L'action est en hausse de... je vous reviendrai, là, mais elle a connu une bonne journée. En hausse de... elle est à 330 $. Elle a été émise sur le marché à 250 $. Donc, il y a eu un engouement assez important. Ça a été une excellente journée pour les actionnaires de Coinbase, mais ça reste évidemment une action extrêmement volatile, des hauts et des bas. Mais c'est encore une fois le symbole de l'institutionnalisation des crypto-monnaies. Il y a comme une folie. On se demande jusqu'où ça va arrêter. Aujourd'hui, tu as le guichet ATM des crypto-monnaies qui est évalué à 100 milliards de $ à la Bourse de New York. Et plusieurs y voient une façon de s'exposer aux crypto-monnaies en achetant des actions de Coinbase qui a des revenus, qui a quand même eu des revenus d'$1 milliard l'an dernier avec la hausse du prix de du Bitcoin. Évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est un phénomène qui est à surveiller, de voir que de plus en plus de ces entreprises dans l'univers de la crypto qui entrent en bourse et qui font les manchettes et qui suscitent énormément d'enthousiasme et d'engouement.
En même temps, qu'il nous dit que la crypto-monnaie va continuer, c'est très, très, très volatile. Donc, ça monte, ça descend. Mais ceux qui disaient là, que ça vaut rien puis ça va retomber à zéro, Je veux dire, une fois que Wall Street, toutes sortes de gros joueurs, puis les banques, tout le monde a le bras dans cette tordeur-là.
Ouais.
Il y a comme une solidité, à mon avis, là. C'est, je suis pas un expert, c'est une solidité qui s'installe, non?
Ben, il y a une légitimité, il y a une solidité, il y a des fonds négociés en bourse. La Security and Exchange Commission aux États-Unis, le gendarme de la bourse, un peu l'AMF aux États-Unis, s'intéresse, mène des enquêtes, légifère, régule. Donc, c'est un marché qui s'institutionnalise, qui devient de plus en plus accessible. Alors, assurément, il est là pour rester.
Ce qui ne veut pas dire, c'est vrai qu'il n'y aura pas encore des fluctuations spectaculaires de sa valeur dans les deux sens. Merci beaucoup, Pierre-Olivier.
Il n'y a pas de quoi. Salut.